commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Le roi de rois, qu'il soit magnifié, celui qui est assis sur le trône, qu'il soit magnifié avec le monde, il lui a quelque chose, avec le propre monde, il lui a quelque chose, qu'il soit magnifié, le rocher de Zage, qu'il soit magnifié, celui qui règne à Shama, qu'il soit magnifié, celui qui règne à Shama, l'éternité en éternité, il est Dieu.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, avec notre chorale et avec le faible mot que tu nous donnes, et ce vocabulaire plein d'imperfections, nous voulons te dire, sois magnifié. Sois magnifié dans nos vies. Et permets qu'aussi par nos vies, tu sois magnifié aux yeux des autres. Merci pour ce merveilleux temps. Merci pour notre offrande imparfaite que tu acceptes. Et merci aussi de nous parler. Je prie que dans la vie de quelqu'un, il y ait un avant et un après audition de cette parole. Je prie que dans quelques mois, dans quelques années et même dans l'éternité, que quelqu'un puisse se dire, c'est en ces jours-là que quelque chose de nouveau a commencé dans ma vie. Que j'ai pris un nouveau départ, que je me suis relevé. Merci d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, amen. Évangile de Luc, chapitre 15. Depuis plusieurs semaines, nous avons commencé à parler des paraboles de Jésus-Christ. La séance d'aujourd'hui doit être la cinquième. Nous avons déjà parlé des trois paraboles après la séance introductive. Et nous allons rester sur la parabole du fils perdu. Luc chapitre 15, nous lirons du verset 17 au verset 24. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. D'autres versions disent l'un de tes serviteurs. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, te voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Dimanche passé, introduisant cette parabole, nous avons voulu montrer ce qu'elle cachait et qu'elle contenait comme leçon. Si vous vous souvenez, nous avons dit qu'il y avait une leçon principale. Christ voulait montrer aux scribes et aux pharisiens le cœur du Père, plein de compassion, plein de miséricorde, prêt à vouloir pardonner et redonner une seconde chance. Selon que la Bible dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais ce qu'il veut, c'est que le méchant puisse se convertir. Mais nous avons dit aussi qu'il y avait plusieurs autres leçons secondaires, et parmi lesquelles nous avons parlé de la gestion de la liberté, la gestion de ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, le libre arbitre, de décider nous-mêmes, de choisir quant à notre devenir. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect, toujours partant de cette parabole, nous allons parler des principes bibliques de la restauration. Les principes bibliques de la restauration. En lisant, en étudiant la parole de Dieu, nous retrouvons que la parole de Dieu est plein d'enseignements. La parole de Dieu nous donne les bases pour faire certaines choses. Du reste, Christ, en parlant à ses disciples, mais aussi à la foule qui était derrière, il leur a donné des principes quand vous voulez construire, des principes quand vous voulez vous lancer dans une Initiative. Il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir et calculer la dépense. Voir si ce qu'il veut commencer, il va l'achever. Et ça, quand nous lisons cela, nous voyons des principes attachés à toute initiative, à tout engagement. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que j'ai les provisions nécessaires? Est-ce que j'ai les atouts? Et au travers de ce bout que nous avons lu, nous voyons combien on peut partir d'un point de déchéance et retrouver certaines choses. En lisant les récits, on se rend compte que ce récit est d'abord et surtout un récit parlant de la restauration. Parler de la restauration, c'est parler des trois choses principalement. C'est parler d'un retour à un état initial, plaisant, qu'on avait et que pour une raison ou une autre, on a perdu. Retour à un état plaisant. On était en bonne santé et puis voilà, on est frappé par une crise de paludisme sévère. On n'arrive plus à manger, on vomit. On perd du poids. Et puis, on prend quelques médicaments. Les fièvres s'arrêtent, les vomissements s'arrêtent. Mais des fois, il faut du temps pour petit à petit retourner à l'état initial où on peut être en forme. On peut me dire, est-ce que tu peux venir au travail? Oui, mais je n'ai pas encore totalement récupéré. La maladie n'est plus là, dans sa forme la plus sévère. Mais on n'est pas encore redevenu totalement en restauration. C'est retour à un état initial plaisant qu'on avait et que l'on a perdu. La restauration, c'est aussi remettre quelque chose dans son état d'origine, qu'il avait ou qu'il a perdu, et qu'il a perdu. Retour à un état d'origine. Troisièmement, la restauration, c'est rétablir dans un état de bon fonctionnement initial quelque chose qui autrefois fonctionnait bien, mais qui pour une raison ou pour une autre ne fonctionne plus. Et en étudiant ce récit du fils perdu, nous voyons ce jeune homme passer par trois états. Nous le voyons d'abord dans un état plaisant dans la maison de son père. Il avait tout, il ne lui manquait rien. Dans la félicité, dans la quiétude, dans la jouissance, ça c'est le premier état. Et puis nous le voyons lever une option, faire un choix qui l'amène à tout perdre. Qui l'amène à descendre plus bas que ce qu'il était. Et lui-même, il peut comparer son état premier et l'état second né de son choix. Où il commence à manger avec les cochons. Où lui qui était un enfant dans une maison devient un ouvrier, travaillant sous la direction d'un homme. Il n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus ce qu'il avait. Mais à la fin, nous le voyons dans un troisième état. Il retrouve son état initial, qu'il avait momentanément perdu. Il redevient celui qu'il était. Il a de nouveau ce qu'il avait autrefois et que par sa folie, il a perdu. Cela me permet de parler en ce jour des quatre principes, c'est-à-dire des normes, des règles, ou des lois qui font qu'il puisse y avoir restauration. J'aurais pu en parler, en citer sept. Mais j'ai trouvé, les trois derniers sont petits et minimes. J'en parlerai à la fin, juste en concluant. Mais il y a les quatre que j'ai estimés les plus importants, sur lesquels je vais plus élaborer. Premièrement, il n'y a pas de restauration sans perte. Ça, c'est le premier principe. Il n'y a pas de restauration sans perte. Et parler de perte, c'est de parler du fait de ne plus avoir quelque chose à sa portée, mais que l'on avait autrefois. Perdre. Perdre, c'est ne plus posséder ce qui était en notre possession. Perdre, c'est ne plus avoir à jouir de quelque chose dont on avait la jouissance autrefois et même on appréciait. Perdre, c'est la disparition de quelque chose qui était là et qui n'est plus devant nous. Perdre. Et en parlant des pertes, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses qu'il est important que nous puissions retenir à ce niveau. Premièrement, les pertes peuvent avoir plusieurs visages. L'on peut perdre sous le plan spirituel, perdre sa relation avec Dieu. On était quelqu'un qui craignait Dieu. On était quelqu'un, la sainteté était notre fort. On était quelqu'un autrefois, quand il nous arrivait, par mégarde de mentir, nous perdions la paix. Et des fois, pour la retrouver, il nous fallait aller rectifier en plaçant la vérité là où nous avions placé les mensonges. Mais voilà, pour une raison ou une autre, on s'est habitué. Désormais, on ment. Désormais, on dit de fausseté, ça ne vous fait plus rien. Seigneur, donne-moi ce matin quelqu'un qui va retrouver ces choses. Donne-moi. C'est pour ça que j'aime souvent dire, s'il y a une race que j'aime beaucoup dans l'église, ce sont les nouveaux convertis. Ils sont fantastiques. Ils connaissent peu, mais ils vivent beaucoup. Les vieux convertis connaissent beaucoup, mais ils vivent peu. J'aime souvent encore dire, je préfère l'extrémisme des nouveaux convertis à la tolérance des vieux convertis. Les nouveaux convertis te trouvent en train de lire Paris Match, frère, tu passes du temps pour des choses futiles. Et le vieux converti peut regarder des choses qu'il ne doit pas regarder en trouvant des justifications. On m'a parlé d'un frère qui était en train de regarder un film pornographique. On dit, tu fais quoi? Je veux voir combien les diables travaillent dans les âmes. Diable, aïe, 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 aïe. Satan. Ce sont des gens évangélisés. Hein? On n'a pas besoin de ça pour avoir les fardeaux. Ce sont des vieux convertis. Un jour, un jeune homme, un nouveau converti, est passé devant. Il témoignait en pleurant et dit, je demande pardon parce que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je n'aurais pas dû dire ça. Et deux vieux convertis qui étaient côte à côte, j'étais juste derrière. Ils se sont tapés. Et puis l'un a l'une des phrases les plus tristes que j'ai jamais entendues. Il a dit, le temps fera de lui ce que nous sommes devenus. Ce sont de vieux convertis, tolérants. Qu'est-ce que tu as perdu sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu étais autrefois que tu n'es plus? Comme je disais, on peut perdre sur le plan spirituel, perdre sa relation avec Dieu, perdre la communion, perdre les valeurs et les vertus spirituelles, perdre l'intérêt pour les choses de Dieu. Autrefois, on était intègre, aujourd'hui, on est limite. L'honnêteté, c'était notre style de vie. La vérité était sous notre bouche. On était discipliné dans sa marche avec Dieu. On avait toujours dans son canevas, dans son agenda, un temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour prier. On avait un jour de jeûne. Est-ce que tu es le même sur le plan spirituel? On peut perdre aussi les ailes dans les services. On servait Dieu. On aimait venir dans sa maison. On chantait pour lui. L'on donnait pour Dieu. L'on évangélisait. On voulait parler à qui était prêt à nous entendre de notre foi. Êtes-vous les mêmes? La prière autrefois était une joie. Aujourd'hui, elle devient une forme de corvée. L'on peut aussi perdre des atouts spirituels. On peut perdre des dons spirituels. Dieu vous utilisait autrefois. Les parler en langue, la parole des connaissances, les dons spirituels, toutes sortes de choses. Vous aviez des visions et quand vous les receviez, vous savez expliquer. Êtes-vous la même personne? Mais on peut aussi perdre des choses palpables. La santé. Non, j'ai toujours été en bonne santé, mais depuis quelques années, j'arrive pas à expliquer. Douleur par-ci, douleur par-là. On peut perdre des choses palpables, mais on peut aussi perdre des choses non palpables, mais combien importantes. On peut perdre la paix. J'étais quelqu'un autrefois, je ne me tracassais pas. Que je ne puisse pas avoir, j'avais la quiétude. Mais désormais, je deviens quelqu'un qui est habité par des inquiétudes. Seigneur, fais-moi redevenir celui que j'étais autrefois. On peut perdre la joie, mais on peut aussi perdre la réputation. Perdre la crédibilité. Peut-être à cause de certaines choses que l'on a eu à faire soi-même. Les pertes peuvent être multiples. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, la Bible parlant de Salomon, dit « Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Il avait perdu spirituellement. » Autrefois un cœur entier, autrefois attaché à Dieu. Êtes-vous les mêmes? Suis-je le même? Sommes-nous les mêmes? Deuxième chose que je me dire par rapport aux pertes, c'est que les pertes peuvent être des réalités individuelles, mais aussi des réalités collectives. Un individu peut perdre, un couple peut connaître la perte. Plus de joie, plus de jus, plus de complicité. plus de lien entre les deux. Comme nous avons parlé tout au long de la semaine, plus d'intérêt l'un pour l'autre. Mais on est ensemble, mais l'on peut savoir, plus rien n'est comme avant. Des hommes peuvent perdre, des individus peuvent perdre, mais des groupes aussi peuvent perdre. Un pays peut perdre, une ville peut perdre, un pays peut petit à petit descendre plus bas. Dans Esdras, chapitre 3, versets 12 à 13, la Bible nous parle d'une restauration, mais vécue différemment. Écoutez ce que la Bible dit. Quand on a rebâti, écoutez, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'ils ont posé sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi les peuples, car le peuple poussait des grands cris dont les sons s'entendaient au loin. Les uns pleurent, les autres se réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision mitigée. Je bénis Dieu pour les efforts que nos gouvernants sont en train de faire. Certains parlent des progrès. Moi, j'ai difficile à utiliser le terme progrès. Si progrès, c'est retourner presque là où on était autrefois, moi, je n'appelle pas ça progrès. Les enfants qui sont nés après 90, ils ont l'impression que dans cette ville, dans ce pays, il y a toujours eu des taxis à trois derrière ou à quatre et deux devant. Demandez-nous qui sommes nés en 64. Demandez-nous qui avons connu autre chose. J'ai raté les bus scolaires à l'Athénée de Kalina ici. Je prenais un taxi, j'étais seul. Et ça m'a mené à Bandar sur une Zobé. 71, 72. Ça n'a pas toujours été ça. Autrefois, on ne vendait jamais une boîte de tomates coupée en trois ou en quatre. Non, je n'aimerais pas m'habituer aux choses avec lesquelles on ne doit pas s'habituer. Autrefois, dans cette ville, ça brillait de partout. De telle sorte qu'on appelait même Kinshasa, Kinshasa, Potomoyindo. J'ai béni Dieu pour quelques lumières par-ci, par-là. Mais je me dis, c'est en dessous de ce qui était autrefois. Gloire à Dieu, ceux qui ont commencé à aller plus loin. Mais moi, je n'appelle pas ça progrès. Mais je dis, je les encourage. Que Dieu soit béni. Je veux quelquefois, on a chanté, non. Les fonctionnaires, ils auront 70 dollars. Quand moi, j'étais petit, mon père, depuis que je l'ai connu, il a toujours été enseignant. Il n'a jamais changé. Il avait un salaire qui permettait que l'on vive et il épargnait. Enseignant. Le directeur Henri Bertin. De telle sorte qu'au mois de juillet, quand l'année finissait, l'État lui donnait un billet pour retourner chez lui. Il allait à Loubefou, il allait à Katakokombe. Mais aujourd'hui, comme vous voyez l'accréditif de mon père, 28 000 francs congolais. C'est même pas les transports. Donc même quand on lui donnera un salaire de 200, moi je ne parle pas des progrès. Une ville peut perdre. Un pays peut perdre. Et nous avons beaucoup perdu. Beaucoup. Autrefois, les gens avaient des cartes d'ayant droit qui signifiaient quelque chose. Vous allez vous faire soigner, vous faisiez soigner décemment. Nous sommes tombés de plus en plus bas. Il y a des véhicules impossibles, des taxis impossibles que j'ai trouvés à l'IPEN. Quand vous prenez l'IPEN, vous allez vers Kinzonzi. La boîte de vitesse est derrière. Hein, c'est les beaux garçons, c'est côté sa deuxième. Et les chauffeurs s'occupent d'autre chose. Les réservoirs au-dessus. On a l'impression, on rêve ou quoi? Côté sa troisième. Il y a des choses qu'on ne voit qu'au Congo. Ah, je me souviens, j'étais petit, les années 68, 69, 70. J'avais mes aînés, dont certains occupent de grandes responsabilités, étudiants à Louvanium. Ils avaient des chapeaux merveilleux. Quand ils venaient, j'avais envie de grandir vite, de devenir comme eux. Aller voir leur home impeccable. Aller voir leur restaurant. Je me souviens de temps en temps quand j'allais les visiter. Quand j'ai rentré, ma mère me disait, tu as grossi. Je disais, maman, je mange mieux là-bas qu'ici. Ils avaient des bourses. Seigneur, aide-nous à retrouver ces choses. Allez voir nos hommes aujourd'hui. Autrefois, devant nos hommes, c'était des jardins. Quand j'ai dit jardin, je me dis, il y avait de la pelouse et des fleurs. Aujourd'hui, Matembele par-ci, Mais t'écoutez vous par là, parce qu'on ne sait jamais. Presque chaque chambre est une boutique. On ne sait pas qui achète chez qui. Tout le monde vend. Mais c'est encore possible que nous puissions retrouver la gloire passée. Ah, je nous en supplie, ne nous habituons pas à cette déchéance. Désirons mieux, désirons plus. Les individus peuvent connaître des pertes, mais des groupes aussi. Troisièmement, les pertes peuvent être des phénomènes subites, tout comme ça peut être un processus. Ça se passe de manière insidieuse. Ça ne se fait pas remarquer. Vous êtes en train de perdre petit à petit. Quand lisons Ézéchiel chapitre 10, verset 18, et Ézéchiel chapitre 11, verset 23, nous voyons Judas perdre. La Bible dit la gloire de l'Éternel se retira d'abord du seuil de la maison. Mais puis après, la gloire de Dieu se retira de la ville. Perte graduelle, silencieusement. On est en train de perdre, on ne se rend pas compte. Quatrièmement, les pertes peuvent avoir plusieurs causes. Premièrement, nous-mêmes, par nos mauvais choix, nous pouvons occasionner des pertes. Et ça, c'est le cas du fils prodigue. Il a connu une perte, il a connu une déchéance, mais c'est lui l'élément causal. Donne-moi ma part de l'héritage. Mais il y a des pertes que nous pouvons connaître à cause d'autres personnes. Joseph a perdu sa tunique de plusieurs couleurs. La fierté d'avoir cette chose qui le distinguait à cause de la jalousie des hommes. Du reste, il visait ça. Dès qu'ils l'ont attrapé, la Bible dit, ils lui ont arraché sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont voulu qu'il soit nu. Ils ont voulu qu'il soit commun. Que des gens qui ne veulent pas que vous soyez distingués. Leur rêve, c'est que vous soyez commun. Je parlais un jour avec un homme de Dieu qui, il y a 10 ans, il pleurait. Il est venu de l'Est du pays et il s'est attaché à certains hommes de Dieu ici à Kinshasa. Il dit, Roland, je me suis rendu compte qu'ils sont impudiques, terribles. Ils sont mariés, mais ils courent avec les jeunes filles. Et des fois même, avant dans les prêcher, j'arrive pas, ils ont une conscience cautérisée, morte. Il dit, l'un d'eux me disait un jour, mais yo, ça reste extraterrestre, Tony. Yo, moi, sinon, pas très là qu'on n'a pas part. Hein? Tu ne connais pas la doctrine de la grâce, cette fois le juste tombe. Cette fois, il se relève. Et puis un beau jour, on lui a donné une jeune fille. Non, elle peut t'aider pour certaines courses et tout. Elle dit, je voyais seulement cette jeune fille, la manière dont elle était habillée. Elle dit, papa, ce royaume a décolleté moko, osoba kanitonine. Et puis un beau jour, cette jeune fille viendra en pleurant en disant, ce sont eux qui m'ont envoyé. En me disant, fais ceci, fais cela pour de faire tomber. Il y a des pertes qui ont des gens derrière. Ils veulent que vous soyez comme eux. Joseph a perdu sa réputation et sa crédibilité en Égypte à cause de la femme de Potiphar. Sous son casier judiciaire, il était écrit « homme dangereux, pervers, faites attention ». C'était faux, mais il avait perdu sa réputation. Mais j'aimerais vous dire, quand vous perdez et que cette perte est basé sur la fausseté, il y a un Dieu au ciel. Amen. Cinquièmement, je me redis, par rapport aux pertes, il y a toujours deux attitudes possibles. Soit, on sait que l'on a perdu, et ça c'est très positif. C'est même un premier pas qui peut vous aider à récupérer. Mais deuxièmement, soit on ne sait pas, et cette deuxième attitude est dangereuse, car elle nous donne une fausse assurance. Nous croyons que nous sommes toujours ce que nous étions alors que nous ne le sommes plus. Nous croyons que nous avons ce que nous avions autrefois, mais nous ne l'avons plus. Seigneur, aide-moi quand j'ai perdu que je puisse le savoir. Dans Juges chapitre 16, au verset 19-20, parlant de Samson, la Bible déclare, Delila rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Écoutez ce que la Bible dit, il perdit sa force. Mais je suis triste de lire la suite. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai comme les autres fois. Et la dernière phrase m'a toujours attristé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Samson, tu as perdu, mais tu ne le sais pas. Samson, tu n'es plus celui que tu as toujours été. Seigneur, aide-moi quand j'ai perdu, que je le sache. J'arrive pas à l'expliquer, même sur le plan physique, parce qu'il n'a jamais coupé ses cheveux. Les historiens disent que ses cheveux devaient aller jusque-là. Donc quand il s'était endormi, quand on avait coupé, il devait sentir même le poids de sa tête. N'était plus le même. Mais la Bible dit, il ne savait pas. Que des gens qui perdent et qui ne savent pas. Aide-moi à savoir quand j'ai perdu. Dans Luc au chapitre 2, verset 43, 44, parlant de Jésus, avec ses parents, ils sont allés à Jérusalem, la Bible dit, puis quand les jours furent écoulés et que Marie et Joseph s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. La fin du verset dit, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Le verset 44 continue, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, assurance mal placée. Il est là. Il doit être là. Seigneur, aide-moi quand j'ai perdu, que je le sache. À prendre conscience. Sixièmement, personne d'entre nous n'est à l'abri de la perte. Personne. Perte sur le plan santé, perte sur le plan spirituel, personne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde et ne point tomber. C'est pour cela, l'apôtre dira, veillez et priez, car votre ennemi rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Personne n'est à l'abri de la perte. Soit perte par choix personnel, soit perte causée par les hommes. Seigneur, aide-moi à être éveillé. Aide-moi à ne pas dormir. Tout ça, c'était pour le premier principe. Il n'y a pas de restauration sans perte. Mais deuxièmement, il n'y a pas de restauration sans prise de conscience de la perte. L'un des premiers pas que peut nous permettre à retrouver les choses perdues, à redevenir ce que nous étions, c'est s'arrêter, s'analyser, faire une introspection, réfléchir, réflecter, rentrer dans. Chez certaines personnes, la réflexion est comme un luxe. S'arrêter, s'auto-évaluer, c'est trop élevé. C'est pour cela que j'aime dans Luc 15, verset 17, ce jeune homme a fait des choix qui l'ont amené plus loin. Mais j'aime ce que la Bible dit, étant rentré en lui-même. Dites avec moi, étant rentré en lui-même. Seigneur, aide-nous des fois à nous arrêter à rentrer en nous-mêmes. Étant rentré en lui-même, il s'est dit. La version des semeurs dit, alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Des fois, il est bon que nous puissions nous isoler. Nous nous regardons nous-mêmes, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis sur le plan spirituel? Où est-ce que nous en sommes, mon épouse et moi? Quelle est la qualité de notre relation? Où est-ce que nous en sommes en tant que nation? J'ai aimé, vers la fin des années 91-92, le Congo a dû s'arrêter. Réfléchir sur lui-même. Conférence nationale. Tout n'a pas été parfait. Mais j'ai quelquefois entendu parler des rapports dans tel domaine. Ouf, quels précieux documents qui peuvent nous aider. Mais malheureusement, on prend cela, après on jette dans les oubliettes. La version Alfred Quen, ou Parole Vivante, dit du même verset, alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Pas de restauration, sans prise de conscience. Et dans les processus de restauration, il y a toujours l'utilisation d'un ingrédient principal. Notez bien cela, c'est la mémoire. Pas de restauration sans mémoire. On prend l'image de la perfection que l'on était autrefois ou que l'on avait et on prend l'image d'aujourd'hui. On les met côte à côte et l'on compare. Est-ce qu'aujourd'hui est égal à hier? Étant rentré en lui-même, il s'est dit, même des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Il a comparé deux choses. Il s'est regardé physiquement. Il a vu ses ongles. Il a vu sa saleté. Il a vu sa barbe de plusieurs jours. Il a vu ses cheveux. Il a senti comment il était. Et il s'est remémoré l'image mentale de ce qu'il était dans la maison de son père. Belle robe. Chaque bain parfumé. Tout était propre. Son père vérifiait. Manicure. Et pédicure. Et il a comparé, dit, c'est pas ça. Et deuxièmement, il a comparé ce qu'il mangeait. Moi, je commence à me disputer la nourriture avec les cochons. Ça, j'ai jamais touché. Seigneur, aide quelqu'un ce matin a utilisé sa mémoire. Et quelqu'un a s'arrêté à dire, ça ce n'est pas moi. J'aime pas souvent relater cette histoire. Je demande à personne de me poser la question de qui il s'agit. J'ai rencontré un frère qui a servi le Seigneur avec moi. Au début de ma foi, je l'ai rencontré en Amérique du Nord. Déchéance. Un homme qui a travaillé avec moi, un homme qui a fait des choses glorieuses. Il a servi Dieu avec moi. Je l'ai vu donner des paroles de connaissance. Je l'ai vu prier pour les gens. Je l'ai vu faire des délivrances utilisées de manière fantastique par Dieu. Je sais qu'avant que je n'ai en Amérique du Nord, pour la première fois, j'ai appris qu'il n'était plus dans la foi. J'avais souffert. Et quand je suis arrivé dans une ville, on m'a dit, il habite ici. Et puis un beau jour, au supermarché, je le vois. Il s'était converti au Rasta. Avec des dreads. Démarche assez bizarre. Il était avec des Jamaïcains. Quand il m'a vu, oh, pasteur, j'étais gêné, j'accepte ou j'accepte de bas. Mais presque tous l'attaquaient. Je l'ai salué. Je me souviens que deux jours après, je l'ai invité au restaurant. On a mangé de tout. J'ai parlé de tout sauf de ce qu'il était. Mais j'ai rencontré un frère qui me dit, j'ai une cassette d'une des prédications qu'il avait faites il y a plusieurs années à la jeunesse. J'ai dit, donne-moi, j'ai écouté, waouh, merveilleux message. Et puis je l'ai invité là où j'ai resté. J'ai dit à cet ami-là, j'aimerais passer un temps dans la prière en séjour. Puis quand il est venu, je lui ai dit, j'aimerais qu'on écoute quelque chose. Et j'ai placé la cassette. C'est une prédication de 40 minutes. Il n'a même pas écouté 15 minutes. Il a craqué, il a commencé à pleurer. Je le vois rouler par terre. Il dit, le vrai moi, c'est celui-là. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Pas de restauration sans mémoire. Il s'est arrêté, il dit, ça, ce n'est pas moi. Moi, j'avais un père, j'avais une maison. J'étais bien étant rentré en lui-même. Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5, lorsque le Seigneur s'en prend à l'église d'Éphèse, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi. Utilise les souvenirs. Va puiser. Souviens-toi. Remonte certains souvenirs. Seigneur, aide quelqu'un ce matin à se souvenir. J'ai toujours été un mari fidèle. J'ai jamais été un coureur de jupons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas? Les gens ne le voient pas. Même mon épouse ne connaît pas. Mais j'ai jamais été ça. J'ai jamais été ça. J'aimerais redevenir celui que j'étais autrefois. Vous-même, dans votre conscience, vous avez les souvenirs de votre attachement à Dieu, à votre famille, à votre femme. J'aime ce que la version parole vivante dit d'Apocalypse 2, 4, 5, surtout les versets 5. La version parole vivante dit, allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Aïe, 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 aïe. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Seigneur, aide quelqu'un en ce jour à se souvenir. La prise de conscience de la perte et surtout de la qualité et de la valeur de ce qui est perdu peut amener aux larmes et au brisement. Dans 1 Samuel chapitre 30, versets 3 à 4, David avait été avec ces gens de mercenaires. On leur avait donné un endroit à Tskilag où quand ils faisaient toutes sortes d'incursions, ils revenaient là. Mais voilà, quand ils sont allés, en revenant, les Amalécites avaient attaqué leur pays ou leur endroit. Femmes et enfants étaient emmenés en captivité. J'aime ce que la Bible dit. Quand David revient, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Écoutez la suite. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Aide-moi quand j'ai perdu à prendre conscience de la valeur des choses que j'ai perdues. Ceux qui pleurent, ce sont des hommes de combat, des hommes habitués. Des guerriers, ils n'ont pas la larme facile. Ce sont des hommes habitués au corps à corps, qui affrontent la mort chaque jour. Mais là, ils laissent éclater leurs émotions. La Bible dit une chose forte. Non seulement qu'ils ont pleuré, mais ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force. C'est-à-dire, le désir de pleurer était encore là, mais les dépôts de larmes étaient épuisés. Ça me rappelle un petit garçon, quand on grandissait, un jour il pleurait, on l'a tapé. Et puis subitement, il y a eu silence. Sa mère lui a posé la question. Tu as arrêté de pleurer? Il dit non, je me repose. Donc d'ici là, il y aura la suite. Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. J'ai grandi auprès d'un homme dur et qui voulait nous montrer que l'homme doit être différent. Mon père m'a appris des techniques en pleurs. Il m'a dit, Roland, les hommes ne doivent jamais pleurer, surtout pas en public. Il dit, les femmes pleurent par les yeux, mais nous les hommes, nous pleurons par les nez. Il dit, quand tu me vois à un, deux, je commence à me moucher 25 fois. C'est que ce qui devait sortir par les yeux, je les ai déviés. Pour ne pas paraître faible. 1000 fois, je Mais ces hommes de combat, la Bible dit, ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force, conscients de la valeur des choses perdues. Je ne peux pas vivre sans ma femme. Je ne peux pas vivre sans mes enfants. Ma vie ne sera plus la même sans ces êtres précieux. Seigneur, donne-moi en ces jours quelqu'un qui va pleurer en disant, j'ai perdu des choses. Je sais ce que ces choses m'apportaient. Et je sais aussi combien j'ai un vide depuis que je ne les ai plus. Il rentre en lui-même. Troisième élément important, il n'y a pas de restauration sans volonté. Pas de restauration sans volonté. La volonté, c'est cette faculté qui nous pousse, hommes ou femmes, à désirer fermement des choses et à ne pas s'arrêter parce qu'on désire les avoir. La volonté, c'est cette qualité de fermeté et de persévérance dans les actes quand on est engagé dans une entreprise. Pas de restauration sans volonté. Il a fait d'abord une introspection. Il est rentré en lui-même. Il a su ce qu'il devait faire. Luc chapitre 15, verset 18, parle de deux choses importantes. La Bible dit, il s'est dit en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre les cieux, et j'ai péché contre toi. J'assumerai mes actes, mais je ne peux pas rester ici. En voulant rentrer, il est possible que l'on me rejette, mais moi je vais faire ma part. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je sais les propos durs que j'ai tenus. Je sais combien je méprisais ce papa. Mais je vais oser faire quelque chose. Je préfère oser faire quelque chose et que l'on me rejette au lieu de tirer des conclusions ici. Je ne sais pas ce qui m'attend. Chaque pas qu'il est rapproché de la maison, il y avait incertitude. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui a la volonté de retrouver des choses. J'aimerais dire, les intentions ne nous changent jamais. Beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais n'ont pas la volonté de passer aux actes. L'abbé dit, il s'est dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Ça c'est le verset 19, mais j'aime le verset 20. Il s'éleva et partit. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce jour qui va partir. Qui ne va pas se limiter, je ferai ceci. Je demanderai pardon à mon épouse. Je demanderai pardon à ma femme. Je demanderai pardon à cette personne. Des fois ça pèse. Mais des fois, c'est le prix à payer. Pas de restauration sans volonté. La volonté est d'une grande, d'une très très grande importance. Parlons de David, 1 Samuel chapitre 30, versets 9 à 10, et puis 17 à 19 dit, David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents de Bessor. J'aime les versets 17 et jusqu'à 19. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Il tenait tellement à récupérer, pas de sommeil. Depuis l'aube du jour, comme si on a commencé à 3h, 4h, 5h, mais jusqu'au soir du lendemain. Pas de repos. Je dois coûte que coûte récupérer femme et enfant. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Jusqu'où je suis prêt à aller pour récupérer les choses perdues? Et j'aime la suite. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et le verset 19 dit, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni même ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Seigneur, je prie que tout soit ramené dans la vie de quelqu'un. Je prie qu'en ces jours, les choses perdues soient retrouvées. Je me lèverai. Et c'est cette volonté qui a fait que la belle robe revienne sur son corps. Que les sandales reviennent dans ses pieds. Que la bague de l'alliance revient. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui va revenir et qui va payer le prix. Et dans l'aspect volonté, il y a aussi l'aspect foi. C'est-à-dire, il faut vouloir retrouver les choses perdues pour les retrouver. Il faut surtout croire que c'est faisable. Il faut surtout croire que c'est possible, quel que soit le degré de la perte. Il arrive des fois, les pertes sont tellement profondes et énormes que nous avons difficile à croire au fait de les retrouver. La Bible parlant d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu l'a amené dans la vallée des ossements desséchés et lui a fait voir. La Bible dit, il lui fit passer tout autour. Et la Bible dit, il vit combien cela a été sec. Et puis subitement, une question lui est posée. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il arrive des fois, nous regardons les dégâts causés par la perte. Nous avons difficile à croire à une restauration. Seigneur, tu le sais toi-même. Mais je me dis, avec notre Dieu, c'est possible. Cette jeune femme qui était attachée à Christ, Christ fait le pas pour la restauration. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent déjà mauvais. Non, cela fait 4 jours. Qu'est-ce donc 4 jours? Qu'est-ce donc un corps qui se décompose devant celui qui est la résurrection et la vie? Pas de restauration sans foi. Dieu va vous restaurer. Dieu va faire des choses inimaginable. Mais quatrième principe, avant que je ne puisse conclure, toute véritable restauration, requiert toujours du temps. Toujours. Pour retrouver les choses perdues et surtout les retrouver pleinement, il faut du temps. Il peut y avoir un premier pas, mais ce pas doit être suivi de beaucoup de choses. Quand ce jeune homme est rentré dans la maison de son père, il a eu fête, il a eu la robe, il a eu la bague. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a retrouvé physiquement ce qu'il était. Il a dû passer des jours où il a mangé, où il s'est retrouvé dans un certain climat, et puis il pouvait comparer sa photo. Il dit, ouf, un bac. Maintenant, je suis de retour. Croyez à la restauration, mais laissez aussi le temps faire sa part. Souvent, nous voulons récupérer rapidement ce qui demande du temps. J'ai vu quelquefois même dans les couples, vous avez eu des problèmes et puis subitement, il y a eu des chocs. Vous vous êtes demandé pardon, mais la complicité ne revient pas forcément du coup. Il faut laisser le temps. Laisse le temps à l'autre. Laisse le temps à l'autre. Laisse les choses remonter petit à petit. J'aime Juges chapitre 16, verset 22. Samson avait tout perdu, mais j'aime les verbes qui est utilisé. La Bible dit, les cheveux de Samson recommencèrent à pousser de nouveau. Ce n'était plus au point zéro, comme au jour où on lui avait coupé. Mais ce n'était pas encore au point maximal. Il était in between, entre les deux. Il était de retour. J'aime aussi qu'en Néhémie chapitre 6, verset 15, la Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour, plutôt le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. On avait eu à détruire, mais puis la restauration a commencé. Une première brique. Le premier jour, il y avait déjà quelque chose, mais il n'y avait pas tout. Mais c'est au 52e jour que la muraille était de retour. Laisse Dieu utiliser le temps pour faire revenir les choses que tu as perdues. Coopère avec lui. Sois patient avec toi-même, mais sois aussi patient avec les autres. Mais je termine en plaçant ces 3 derniers principes. Le premier, c'est que toute restauration s'accompagne de joie. Des fois, il faut avoir perdu des choses pour reconnaître leur valeur. J'aime dans Luc 15, 23, 25, la Bible nous dit, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et j'aime la fin du verset 24, et ils commencèrent à se réjouir. Écoutez encore comment le père parle à son fils, celui qui était resté à la maison. Mais il fallait bien s'égayer. J'aime cela. D'autres versions disent, c'est une obligation de s'égayer et de se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Quand l'on perd les choses perdues, les choses que l'on avait et qu'on les retrouve, il y a toujours la joie. Deuxième chose, parmi les choses que je voulais apporter à la conclusion, mais sixième si vous voulez classer, c'est que la restauration dans votre vie ne plaît et ne plaira pas toujours à tout le monde. Soyez toujours conscient de cela. Il y a des gens qui vous aiment dans la déchéance. Il y a des gens qui aiment voir votre couple divisé. Quand le fils est revenu à la maison, tout le monde est dans la joie, sauf son frère. On doit désormais partager encore l'amour du père. Quand il était parti, j'étais un candidat unique. Frustré. Et je suis étonné. J'aurais été là, je me retournerais vers lui. J'ai dit, ah, comment tu peux m'appeler comme ça? Il parle à son père, il dit, ton fils. Ce n'est plus son frère. C'est ton fils. Mais comment tu fais ça? Ton fils. C'est pour cela que je dis, soyons prêts. Ne soyons pas naïfs. Il y a des gens qui nous veulent dans la déchéance. Congo, il y a des gens qui veulent que tu sois ce que tu es présentement. Ils y travaillent, ils réfléchissent. Ton non-relèvement, c'est leur profit. Autrefois, nous avions une grande quantité d'haricots qui venaient de Bukavu ou de Goma et qui venaient ici. Mais depuis que les choses ne vont plus, c'est d'autres pays d'Afrique qui nous fournissent. Pour eux, c'est un marché. Est-ce que vous pensez qu'ils seront contents que les choses redeviennent normales? Parce que le Congo est devenu un marché potentiel pour eux. Que ça continue là-bas, que ça tire. Comme ça, nous, on enverra nos sacs. Mais nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le géant est de retour. Dans Néhémie chapitre 4e au verset 1er, la Bible dit, lorsque Sanballa apprit que les murailles étaient en train d'être reconstruites, il fut en colère et très irrité. Il fallait que ça reste comme ça. Votre restauration ne plaît pas à tout le monde. Dans Actes 16, verset 19, la Bible parle de la réaction des maîtres d'une servante. Elle avait un esprit qui la poussait à deviner. Et qui la détruisait. Et quand elle devinait, elle apportait de l'argent à ces gens. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Paul a chassé les démons qui étaient dans cette jeune fille, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Voilà comment on les appelle. Les gablons abyssaux. Ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Des fois, on dit le malheur des uns fait le bonheur. C'est parce qu'il y a certains qui veulent que vous restiez dans ces malheurs. Parce que ces malheurs leur profitent. Mais je termine avec cette phrase. La perte n'est jamais quelque chose de définitif. Jamais. La perte n'est jamais un phénomène non réversible. Mais pour retrouver les choses perdues, il faut le vouloir. Il faut y croire. J'aimerais un petit moment nous demander de baisser nos têtes dans la prière. Ah, Seigneur, prends soin de moi. De moi, je... Oui, de toi.
Seul, je ne suis rien.
Tu le sais.
Tu le sais.
Comment pourrais-je vivre ton amour?
Comment pourrais-je vivre ton amour?
Comment pourrais-je le faire?
Comment pourrais-je vivre?
Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je?
Seigneur, et qui suis-je?
Garde-moi.
Garde-moi, Seigneur.
Oh, Seigneur.
Seigneur.
Oui, prends soin de moi.
J'ai besoin de toi.
Oui, de toi.
Seul, je ne suis rien.
Tu le sais.
Tu le sais.
J'aimerais que la musique continue à jouer. J'aimerais lancer un appel général. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire Dieu m'a parlé ce matin? J'ai perdu sur le plan spirituel. Je suis toujours chrétien, mais je reconnais. Il y a des choses que j'ai perdues, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. J'ai perdu le premier amour. Toujours dans le Seigneur, mais les choses ne sont plus les mêmes. J'ai perdu le zèle dans les services. J'ai perdu le zèle dans la prière. J'ai perdu des choses. J'ai perdu la santé. J'ai perdu des choses. J'ai perdu un travail. Mon couple a perdu la joie. La complicité n'est plus là. Et ce matin, Dieu m'a parlé. Je veux retrouver les choses perdues. Je veux récupérer ces choses. J'aimerais, comme les fils prodigues, revenir dans mon état premier plaisant. Si vous êtes là, je vous demanderai simplement de vous lever spontanément. Afin que nous puissions prier pour vous. Et vous allez vous rasseoir après. Avant que nous puissions passer à la Sainte Cène. J'aimerais récupérer les choses perdues. J'aimerais récupérer les choses perdues. J'aimerais que l'on passe un micro au pasteur Deo, qui va prier pour ceux qui se sont levés et celles qui se sont levées, avant que vous puissiez vous rasseoir et que nous passions à la Sainte Cène.
À l'état initial. Seigneur, tu as remarqué, Seigneur, que nous avons perdu. Tu as remarqué, Seigneur, que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Tu as remarqué, Seigneur, que physiquement, spirituellement, émotionnellement, individuellement et collectivement, nous avons perdu. Nous avons perdu, éternel Dieu. Et ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous soyons restaurés. Seigneur, ce matin, je viens te prier pour tout un chacun, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs qui se sont levés. Père, ils réalisent qu'ils ont perdu. Seigneur, nous réalisons tous que nous avons perdu, à quelque niveau que ce soit, Seigneur. Ce matin, merci pour ta parole. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons perdu. Et parce que nous le réalisons, Seigneur, voilà pour comme le Fils prodigue, nous voulons te dire, Seigneur, que nous revenons à toi. Nous revenons à toi, le restaurateur de nos vies, le restaurateur de nos âmes. Seigneur, ce matin, un cœur crie vers toi et te dit, Seigneur, aide-moi, restaure-moi, Seigneur. Ce matin, je prie afin que quelqu'un soit restauré, restauré dans son intimité avec toi, restauré, éternel mon Dieu, dans ses temps de prière, restauré, éternel mon Dieu, dans la crainte de ton nom. Restauré, éternel mon Dieu, dans sa santé, dans son physique. Et ce matin, nous te prions, Père, pour notre pays, éternel Dieu. Restaure ce pays, Seigneur. Restaure ce pays, éternel mon Dieu. Restaure ce pays. Seigneur, nous voulons le voir. Nous voulons vivre la restauration de ce pays. Nous voulons vivre la restauration de ce pays. Oh, éternel Dieu, merci de le faire, Seigneur. Ce matin, reçois la gloire. Ce matin, reçois l'honneur.
Alléluia.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.